commencer juste une petite série sur le thème principal du livre des Proverbes. Alors, si on vous demandait quel est le thème principal du livre des Proverbes, ça serait quoi? Qu'est-ce qui vous vient tout de suite à la... C'est la sagesse. Ouais. Et je crois que c'est facile à repérer, il faut simplement la lire, vraiment une fois pour voir comment Dieu nous appelle vers la sagesse. Le mot même sagesse ou sage est utilisé au moins 125 fois et le but est de nous aider à acquérir et à appliquer la sagesse de Dieu aux décisions et aux activités de la vie. Et une des choses que nous voyons assez rapidement dans la lecture de ce livre, c'est qu'il ne suffit pas d'être éduqué et de posséder beaucoup de connaissances. Nous avons besoin d'une sagesse qui est plus que ça. Forcément, la sagesse implique une éducation. Si la tête est vide, ce n'est pas sage. Mais la tête peut être remplie de connaissances sans que nous soyons sages. Il y a un élément de plus qui est nécessaire. Et en fait, la sagesse, une façon que vous pouvez définir la sagesse, c'est cette capacité d'utiliser la connaissance. Et les hommes et les femmes sages ont la compétence nécessaire pour saisir le sens d'une situation, l'importance d'une situation, et puis savoir comment répondre, la bonne manière de répondre, et le bon moment, etc. Quoi faire, comment faire et quand faire. En fait, tout ça, c'est des questions que donne, enfin, c'est des réponses que donne la sagesse. Alors, je vais lire ce que vous avez devant vous, mais j'aimerais que vous preniez un stylo et je vais lire pour la simple raison que vous puissiez être vous-même des détectives. Et il y a une métaphore qui revient très souvent aussi en parlant de la sagesse. Et c'est indiqué dans le titre que j'ai donné et que vous avez sur la route de la sagesse. C'est la métaphore de la route ou du chemin. Ou du sentier. Okay, donc, moi je vais lire et vous allez entourer sur la feuille tous les mots, que ce soit des verbes ou des noms, qui vous semblent être en lien avec cette métaphore de la route ou du chemin. Et puis, on va parler aujourd'hui surtout de cette métaphore. Ok, donc Proverbes chapitre 2. Les versets 1 à 22, ce qui est là sur votre feuille. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu connaîtras ou tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut. Un autre mot pour sagesse ici, pour les 5 conseils ici, ou le succès, pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton cœur La connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses pour te délivrer de la femme étrangère. Et dans les proverbes, la femme étrangère, c'est pas l'immigré, c'est la femme prostituée. C'est la femme qui n'a pas raison d'être là. De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et oublie l'alliance de son Dieu. Là, c'est une référence au mariage. Le mariage est une alliance faite devant Dieu. Verset 18. Car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne reviennent et ne retrouvent les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens du bien. Tu garderas les sentiers des justes. Car les hommes droits habiteront le pays et les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays. Les infidèles en seront arrachés. Nous avons la métaphore ici du sentier. Quels sont les autres mots que vous avez trouvés? De la voie, sentier, voie, quoi d'autre? Chemin, oui. Route, oui. Et quoi, pardon? La droiture, oui, la route est définie comme la droiture. Nous allons venir, en fait, en parler de la définition de cette route. Mais il y a aussi un verbe, marcher, hein, qui est lié. Pardon ? Chercher, ok. Oui, nous allons venir, ça donne notre responsabilité. Donc, en fait, il y a trois mots hébreux qui sont traduits différemment. Parfois, donc, on trouve voie, sentier, route. Et parfois, le même mot est traduit avec deux mots français. C'est pas toujours très clair. Mais bon, ça donne tous la même métaphore. Et puis le verbe marcher, verset 7, verset 13, verset 20. Donc, la route, le sentier, le chemin, c'est une des métaphores les plus répandues dans les 9 premiers chapitres de Proverbes surtout. Et c'est une riche métaphore. Ça nous parle de quoi? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle de la route ou le chemin comme une métaphore? Des idées? Pardon? Okay. Le mot progrès. Ça suggère un certain progrès. Très bien. Oui, Laurent?
Une destination.
Une destination aussi. Oui. Un effort, oui, demander, oui, une activité aussi, hein. Très bien. Oui, je crois que c'est assez simple. Même un enfant peut saisir cette métaphore de la conduite d'un individu dans la vie. Et même le mot conduite, ça fait appel à la même métaphore. Donc, c'est riche. Et je vous donne trois choses juste comme introduction. Que vous avez là. D'abord, ça suggère un emplacement actuel. Je crois que vous avez un trou pour mettre le mot un emplacement. Et puis j'ai mis entre parenthèses un état actuel. C'est-à-dire un point de départ actuel. Où vous êtes dans la vie maintenant. Quand on parle d'une route, quand on parle d'un chemin, on peut dire tu es là, tu es dans le chemin. Aujourd'hui, tu es déjà dans ce chemin. Hein, donc on ne parle pas de quelque chose forcément qui est seulement futur. Un chemin, c'est là où je me trouve. On se trouve tous, en fait, sur le chemin. Sur un chemin, en tout cas. Donc, ça, c'est très pratique. Surtout quand le père va parler à son fils concernant la sagesse, parce qu'il va dire, ok, tu peux regarder là où tu es aujourd'hui. Comment es-tu aujourd'hui? Tu peux regarder aujourd'hui pour voir un peu où tu es, sur quel chemin. Et puis, ça suggère des bifurcations à gérer, ou des carrefours dans la route. Hein, parce que quand il y a un chemin, je suis sûr, si vous êtes venu aujourd'hui, que ce soit en transport ou en voiture, c'était pas une route droite entre chez vous et ici. Il fallait tourner à droite ou à gauche, il fallait prendre le rond-point, etc. Et ça aussi, c'est une métaphore qui suggère qu'il y aura des carrefours, il y aura des sorties. Il y a l'option de partir à gauche ou à droite, de faire continuer à faire le tour du rond-point, hein, quand on fait, on ne sait pas où aller. Mais c'est des moments de transition. Je crois que c'est ça qui vous manque, là. Des moments de transition clés. C'est ça que le père veut faire savoir à son enfant. Tous les choix ne sont pas pareils. Hein, le choix entre un croissant et pain au chocolat, c'est un choix à faire. Mais tous les choix ne sont pas pareils. Il y a des choix qui sont tellement importants, ces choix vont décider après votre avenir. Et il essaye de préparer son fils et n'importe notre âge, il faut que nous soyons conscients de cela. Et quand vous arrivez à un carrefour, vous êtes obligé de prendre un chemin. Vous avez fait ça dans la forêt, quand vous marchez dans la forêt, parfois vous dites, il y a deux chemins. Et, parfois j'ai du mal parce que je dois abandonner l'autre. Hein, je regarde dans une direction, je dis, mais ça serait bien, mais si je vais par là, je peux pas aller par là. Et si je vais par là, je peux pas aller par là. Et voilà, il y a des choix, il y a des choix à faire. Et puis, si vous tournez la page, de l'autre côté, il y a quoi à la fin de la route? Il y a une destination. Parce que forcément, le chemin, le sentier dans lequel vous vous trouvez actuellement, mais elle va vous mener quelque part. Elle va vous mener quelque part. Et c'est sûr que si vous arrivez à un carrefour, et que votre ami tourne à gauche, et vous tournez à droite, vous allez arriver à des destinations différentes. Voilà, pas d'autre possibilité. Et tout cela, c'est important en comprenant cette métaphore du chemin. D'accord ? Nous y sommes déjà, sur un chemin. Nous sommes devant des choix à faire, qui vont avoir un impact sur nos vies, et il est sûr et certain que vous n'allez pas... vous allez terminer quelque part. Ça va vous mener quelque part. Vous n'allez pas pouvoir l'éviter. La Bible dit qu'il y a un chemin qui semble droit à un homme, mais la fin, en fait, c'est la mort. C'est la voie de la mort. Donc, nous regardons maintenant le chapitre 2. Et il y a deux sentiers irréconciliables. C'est des sentiers qui vont dans des directions opposées. Et nous allons trouver un nom plus tard, là où il y a la lettre A, pour ce sentier. Mais pour l'instant, on va l'appeler le bon sentier. Il y aura le bon sentier et il y aura le mauvais sentier. Okay? Et ce sentier est défini par, vous l'avez peut-être déjà noté, par des caractéristiques morale. On parle d'un chemin qui est défini moralement. Alors, quelles sont quelques-unes de ces caractéristiques? Est-ce que vous avez relevé? C'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Hein? On fait ça comme exercice, mais pour vous montrer que vous-même, vous pouvez dire, ah, c'est sentier, mais qu'est-ce que je... Et vous commencez juste à méditer, si vous avez le temps, à samedi. Regardez, vous imprimez, vous écrivez le passage, vous dites, mais, ok, qu'est-ce que je peux observer par rapport à ces deux chemins? Que dit ce texte par rapport au bon chemin? Qu'est-ce que vous avez trouvé? On cherche surtout là une caractéristique morale. Ok. Attends, j'ai entendu une voix sans savoir ce que tu as dit. Vas-y, redis-le.
Les convictions, je regarde si ça correspond
au temps moral. Ok. Mais on va d'abord commencer avec vraiment ce que nous voyons dans le texte. Ok. Qu'est-ce que nous voyons littéralement dans le texte? Ok, donne-moi le verset et puis pour qu'on puisse le trouver. Ok, intelligence, ton cœur à l'intelligence. Oui, regardons le verset 8. Qui dit au verset 8? Oui, Betty? Ok, voilà. On va commencer par ce qui est simple et clair. Très bien, merci Betty. Les sentiers de la justice. Donc déjà, pour nous aider, imaginez qu'on aide un enfant. Le bon sentier, c'est toujours le sentier de la justice. Le sentier de la justice. Oui, et puis le verset 9, c'est toutes les routes, mais... Comment est définie ces routes au début du verset 9? Oui, si vous regardez la façon dont il dit, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. C'est quoi les routes? Ben, apparemment, la justice est une route qui mène au bien. L'équité est une route qui mène au bien. La droiture est une route aussi. Vous voyez? Comment c'est défini moralement? Donc là, nous avons déjà plusieurs mots. Au verset 13 aussi, vous avez les sentiers de la droiture encore. Ok, donc ça, bon, on peut revenir après, mais ça déjà, nous avons plusieurs caractéristiques morales de ce sentier. C'est la justice, la droiture, l'équité. Et ça, c'est le bon chemin. Une façon de savoir si je suis sur le bon chemin, est-ce que je suis sur le chemin de la justice, l'équité, la droiture? Ok, et après, il va parler des hommes ou des femmes qui sont sur ce sentier. Il va parler des personnes, des usagers de la route, hein. Les usagers de cette route ou de ce sentier. Que dit-il de ces personnes? Je vous mets quelques versets en parenthèse pour vous guider vers les réponses. Par exemple, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Je m'excuse, hein, il faut retourner la page à chaque fois pour voir le texte. Ok. Voilà, il y a deux choses. C'est des hommes droits. Vous avez ça au verset 7? C'est des hommes droits. C'est-à-dire, vous allez rencontrer d'autres personnes sur cette route. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mais si vous êtes sur la route de la droiture, vous allez trouver des hommes droits. Et aussi, vous allez trouver ceux qui marchent, Jean l'a dit, dans l'intégrité. Et là, vous voyez, il définit la personne. Cette personne marche dans l'intégrité. Vous allez trouver des personnes qui marchent dans la droiture, dans l'intégrité. Au verset 8, qu'est-ce qu'il dit de ces personnes? Que Dieu garde la voie de qui? C'est des hommes et des femmes fidèles, mais c'est ses fidèles, c'est-à-dire ils sont fidèles à qui? Fidèles à Dieu. Ok, regardez le verset 20. Là, ils sont définis comme comment ces gens? C'est des gens de bien. Des gens de bien. C'est tellement simple, mais... Après, nous avons donné la liste du fruit de l'esprit, il dit, mais la loi n'est pas contre ces choses. Hein. Ceux qui font ça sont des gens de bien. Et puis, ils sont appelés quoi d'autre dans le verset 20 aussi? Les justes. Et puis, nous retrouvons encore la même chose au verset 21 que nous avons vu au verset 7. Les hommes droits. Et puis, les hommes intègres. Ça, c'est nouveau. Alors, tout ça nous montre quoi? Je crois que ça nous montre que le caractère interne de l'homme correspond au sentier qu'il a choisi. Hein, vous pouvez mettre ça dans vos notes, hein, que le caractère interne de l'homme correspond au sentier qu'il a choisi. C'est-à-dire, un homme malhonnête ne marche pas sur la voie de l'intégrité. Quelqu'un qui marche sur la voie de l'intégrité n'est pas quelqu'un de malhonnête. Et parfois, on veut se leurrer nous-mêmes, hein, par rapport à nous. Mais c'est, voilà. Imaginez un jeune, il dit à ses parents, mais ils sont quand même sympas. Oui, mais ils font ceci, ils font cela. Oui, mais c'est pas vraiment eux, c'est juste, voilà. Non, ils sont intègres, justes, fidèles, s'ils marchent sur la bonne voie, et nous aussi. Ok, troisième question, on va parler de la sécurité qu'offre le sentier. Et là, je vous encourage à souligner, peut-être d'en revenir de l'autre côté, c'est quelque chose qui est assez frappant. Ma sœur est rentrée dans la ville où a l'orphelinat, en Centrafrique, mais elle va probablement revenir avant le 19, c'est le jour où ils vont annoncer qui a gagné la présidence. Et comme vous savez, dans notre pays, ça peut être des jours turbulents quand ces choses arrivent. Mais c'est pas vraiment que, pour l'instant en tout cas, elles se sentent pas en danger, en fait, là-bas, c'est que la route risque d'être coupée et donc elle serait à la charge en fait des gens dans cette petite ville. C'est mieux pour eux si elle vient à la capitale, comme ça ils n'ont pas la responsabilité de la garder dans la brosse ou quelque chose comme ça. Les routes sont importantes, on veut une sécurité routière. Quelle est la sécurité que donne cette voie? Il y a pas mal de choses qui sont dites ici. On va regarder verset 7. Vous voyez, il tient en réserve le salut. Bon, ici, c'est pas tellement le salut de où il nous garde, mais juste après, qu'est-ce qu'il dit? Il est un quoi? Un bouclier. Un bouclier. Là, c'est une image déjà de sécurité, un bouclier. Donc vous avez sur ce chemin, ceux qui marchent dans l'intégrité ont un bouclier devant eux, ou autour d'eux, ou peut-être derrière eux, partout. Et c'est quoi ce bouclier? Pardon? Oui, c'est une protection, mais ça vient de Dieu aussi, hein, parce qu'il est pour eux ce bouclier. Verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, il y a deux verbes là qui sont importants, vous pouvez noter. Les verbes protéger et garder. Vous êtes sur cette route, vous allez être protégé et gardé. Parfois quand vous rentrez chez vous le soir, il y a des routes que vous évitez, d'autres chemins que vous choisissez, parce que un chemin, il y a plus de monde, il y a plus de lumière, c'est plus protégé. Le mot traduit protégé se trouve en Deutéronome 32, 10. Là, c'est traduit garder, mais il parle de Dieu, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Et vous savez comment on garde l'œil, hein? C'est le réflexe, en fait. Quelque chose qui arrive, tout de suite, on se protège. Et Dieu garde. Il protège comme ça. Verset 11, quels sont les verbes que nous trouvons là? Voilà. Veiller et encore garder. Donc on a protégé, gardé, bouclier, veiller, garder. Et puis un très beau mot, verset 12. Délivrer. Délivrer. De l'autre voie, en fait. On le retrouve aussi au verset 16, exactement le même mot. Dans ma Bible, j'ai les deux entourés et une ligne entre les deux. Pour te délivrer de la femme étrangère. C'est intéressant, au verset 12, délivrer de la voix du mal et de l'homme qui tient des discours pervers. Et au verset 16, te délivre de la femme étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Quel parent ne veut pas ça pour ses enfants, qu'ils soient gardés, protégés, délivrés? Quelle femme ne veut pas ça pour son mari quand il sort tous les jours? Ou le mari pour sa femme, ou les uns pour les autres, ou nous-mêmes en sachant je quitte la maison, je dois entrer dans ce monde, mais je suis sur une route où je serai protégé, gardé, où on veillera sur moi, un bouclier qui m'entoure, etc. Voici la route qu'offre vraiment une très grande sécurité. Et puis, quelle est la fin de ce sentier? Au verset 9, qu'est-ce que nous voyons au verset 9 par rapport à la fin de ce sentier, bon, ce bon sentier? Voilà, il mène au bien. Là, ça parle de la destination. Ça mène au bien. C'est-à-dire, tu vas connaître le bien. Au verset 19, qu'est-ce que ça dit au verset 19? À la fin. Oui, voilà. Ça parle de ceux qui abandonnent, mais ils ne retrouvent plus les sentiers de la vie. Sentiers de la vie. Et verset 21, car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront. Voilà. Ça, c'est la sécurité. Habiter, rester sans être enlevé, chassé. Il y aura une demeure. J'habiterai dans la demeure de l'Éternel, hein, pour l'éternité. Donc ça, c'est le bon sentier. Quel est maintenant l'autre sentier, le mauvais sentier? Quelles sont les caractéristiques morales de ce sentier? On va commencer avec le verset 12, le plus peut-être très général. Comment décrire ce sentier moralement? Exactement, c'est la voie du mal. La voie du mal. Et nous vivons dans un siècle où on appelle le bien mal et le mal bien, et on veut tout confondre, et on veut surtout pas dire que quelqu'un fait du mal dans certains domaines. Après, dans d'autres domaines, les gens disent très vite, non, vous pouvez pas faire ça, c'est mauvais. J'entendais à la radio, juste cette semaine, quelqu'un qui parlait du fait que la pornographie était ce qui était le plus visité sur Internet dans tous les pays. Et puis, il a tout de suite dit, ah, mais je dis pas que c'est mauvais. Il a dit, je fais pas le curé. C'est comme si tout de suite, il doit dire, non, je ne fais pas de leçon morale ici. Non, mais il y a une voie de mal. C'est mauvais. Il faut savoir le reconnaître. Nous retrouvons ce mot mal encore au verset 14. Ces gens qui suivent donc cette route, ils trouvent la jouissance à faire le mal et ils mettent leur plaisir dans quoi? Oui, c'est une perversion. La perversité. Au verset 5, cette voie est décrite comment? Ou ce sentier? Ces sentiers sont des sentiers quoi? Verset 15. Voilà, détournée, et puis deuxièmement, tortueuse. Ce mot détourné parle de la moralité de cette route. Deutéronome 32, verset 5, c'est traduit pervers. C'est des gens pervers et dépravés. Et plusieurs fois dans la Bible, c'est traduit pervers. Les gens qui sont détournés, c'est-à-dire il y a la voie droite, et puis il y a la voie détournée. Proverbe, vous pouvez mettre comme verset Proverbe 14, verset 2. Il y a ce contraste, écoutez. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Donc vous voyez, il y a cette comparaison, encore cette même métaphore. Ce qui est droit, hein, on parle du droit, la voie droite, elle est comme ça. Et puis il y a la voie, voilà, il n'est pas droite, exactement. Tortue, qui manque de droiture, de justesse, qui est détournée. Encore cette même image devrait venir à notre tête. Et c'est une voie qui tourne à droite, à gauche, qui suit un peu la courbe de ce qui est désiré à l'instant, et des passions de l'homme, etc. Mais ce n'est pas une voie droite. Qu'est-ce qu'on peut dire des usagers de ce sentier? Verset 12. On va revenir à cet homme et il tient, voilà, l'homme sur cette route, il tient des discours pervers. C'est un chemin pervers, détourné, tortueux, et son discours l'est aussi. Et puis, il dit au verset 16, « Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. » Vous voyez le parallèle entre cet homme et cette femme? Leur perversité se démontre dans les deux cas comment? Oui, par leur discours, par leurs paroles. Et notez que la délivrance est une délivrance de certaines personnes, parce que par leurs paroles, ils vont avoir une emprise sur toi. Et le jeune, il doit savoir, il parle à son fils, il doit savoir, ses amis qui te parlent, ils vont avoir une emprise sur toi. Tu vas commencer à réfléchir comme eux à cause de leur beau discours. C'est des paroles doucereuses qu'elle a. Verset 13, ces gens sont décrits comment? Comme des personnes qui font quoi? Oui, ils abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux. Donc, ici, c'est clair, c'est pas par mégarde, c'est pas par oubli, c'est un choix. C'est un choix qu'ils ont fait. Verset 15, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent ces chemins, et ils prennent ces routes. Là encore, nous voyons des choix délibérés de leur part. Et voilà, on a vu verset 12, l'homme qui tient des discours, et tout de suite après, il abandonne les sentiers de la droiture. Et puis, verset 16, la femme qui a ce discours aussi. Et verset 17, qu'est-ce qu'elle fait? Elle abandonne aussi. Elle abandonne aussi. Là, il y a encore un autre parallèle. Son mari, ici. Donc, c'est un choix délibéré. C'est un choix d'abandonner. Qu'est-ce que dit le psaume 2 de ces gens? Ils disent, mais brisons leurs liens, délivrons-nous des chaînes de Dieu. Et c'est la folie. Vous savez, je peux aller aujourd'hui. Je dis, j'ai 42 ans, mais moi je me sens plus comme 25 ans. J'aimerais que vous changiez sur ma carte d'identité. J'ai 25 ans. Ah non, monsieur, on ne peut pas faire ça. Ben, mais pourquoi? Je me sens comme si j'ai 25 ans. J'ai la force, j'ai la beauté, enfin j'ai tout. Ben non, vous ne pouvez pas faire ça. Ah, ben, mais moi je me sens comme une femme. Ah d'accord, oui, madame. On va changer ça. Il n'y a pas de sens. Quelque chose d'aussi physique que la sexualité d'une personne, maintenant, on peut dire tout et n'importe quoi. Et c'est un choix parce que on veut se délivrer de la moralité biblique. On veut nous faire nous-mêmes, jusqu'à nous réinventer. Et verset 22, ils sont décrits comment? Il y a deux adjectifs là. Ce sont des méchants. Et au lieu d'être fidèles, ce sont des infidèles. Ok, il faut avancer, il faut dire plein de choses, mais quelle est la sécurité qu'offre ce sentier? Regardez la fin du verset 13, qu'est-ce qu'il dit de ces chemins? Ce sont des chemins ténébreux. Il faut marquer cela, parce que l'image des ténèbres ne parle pas tellement de la moralité de la route, mais de son danger. Quand on regarde les autres occurrences de ce même mot, par exemple, vous pouvez mettre à côté du mot ténébreux le psaume 107, verset 14. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il remplit leurs liens. Donc les ténèbres, c'est la mort ici. C'est l'image de la mort et les liens. Ils vivent dans les ténèbres. C'est dangereux. C'est dangereux. Si les phares ne marchent plus, c'est pas une bonne idée de prendre la voiture et sortir la nuit. On a besoin même dans la maison, on peut se casser la figure si on fait pas attention et on met pas une lumière. On peut rater une marche, quelque chose comme ça. Tout sentier qui est plongé dans les ténèbres devient un sentier dangereux. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 19? Aucun de ceux qui vont à elle ne revient. Il arrive un moment, on ne peut pas faire demi-tour. C'est un chemin tellement glissant. C'est comme si on descend la montagne, c'est tellement glissant que dès qu'on se met, on ne va pas revenir. Là, il n'y a pas de plus grande insécurité. C'est l'assurance de se perdre, en fait. Parce qu'on ne retrouve plus les sentiers de la vie. Et si on ne retrouve pas les sentiers de la vie, où mène donc cette route? Numéro 4, la fin du sentier. Verset 9 a dit, « Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Mais la fin de ce sentier ne mène pas au bien. Ça amène où ?» Verset 18, « Sa maison penche vers quoi ?» La mort. Et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve ses sentiers de la vie, les sentiers de la vie. Notez ce grand contraste encore entre verset 21 et verset 22. Nous avons beaucoup de contrastes, ou de parallèles. Ici un contraste, 21 et 22, car les hommes droits, qu'est-ce qu'ils feront? Ils habiteront. Une image de succès. Ils habiteront le pays. Les hommes intègres, ils resteront. Une image de fermeté, de sécurité. Mais au contraire, les méchants seront quoi? Retranchés. Ils seront retranchés du pays. Et ils seront arrachés. Tout cela fait penser au psaume 1. Car l'Éternel connaît la voie du juste et la voie du méchant ou du pécheur mène à la ruine. Ruine. Ça, c'est la fin de cette voie. Et ce qu'il est en train de nous dire, c'est que vous êtes sur un de ces deux chemins. Tout le monde ici. Vous êtes sur un chemin qui va vous amener à la ruine. Ou vous êtes sur le chemin qui va vous amener au bien. Vous y êtes maintenant. Et les choix que vous faites cette année vont en fait confirmer ce fait. Mais un jour, peut-être avant la fin de 2021, peut-être dans 10, 15, 20, 80 ans, mais avant la fin de la siècle, du siècle, vous allez, tous nous tous, nous allons nous retrouver, très probablement, à notre destination. Et quelle sera la destination? Ben, regardez où vous êtes maintenant. C'est cette route qui va vous amener là-bas. Et pour trouver la bonne route, il faut quoi? C'est quoi le thème des proverbes? Et il faut la sagesse. Vous voyez, l'importance de la sagesse est immense. Immense. Et donc, nous allons parler la semaine prochaine plus spécifiquement de la sagesse. Voilà, nous allons terminer là pour aujourd'hui.